franceinter.com.
Je vais tuer quelqu'un. Je sais qu'un jour, je vais tuer quelqu'un. Je vais péter un plomb, je vais arriver dans une usine ou je sais pas où, un mec va mal me parler et je vais y coller un coup de barre de cri. Alors, j'imagine déjà les gros titres. Un routier pète un plomb, etc. Parce que je suis routier, faut vous dire. Et si vous voulez, je suis un peu fatigué d'en prendre tous les matins. Là, quand j'entends Zébulon nous parler des Français qui se lèvent tôt, travailler plus pour gagner plus. Je viens de prendre un PV là aujourd'hui, pour une raison un petit peu tarabiscotée. Aucun pendeur n'a été capable de me donner la même explication. C'est-à-dire qu'en plus, ça se trouve, le PV, je le mérite pas. Mais ils savent vous préparer psychologiquement. Contrôle à un péage. Voyez, regardez, on a relevé 14 infractions. Là, par exemple, tel jour, vous avez dépassé votre temps de conduite d'une minute. Vous voyez, là, le lendemain, vous avez abusé de 2 minutes. Je vous jure que c'est vrai, hein, les temps sont réels. Donc, 14 fois une minute en trop par jour, voilà, depuis le début du mois. Il faut savoir qu'ils peuvent nous contrôler sur 28 jours en arrière. Et là, le type me sort, monsieur, vous avez 90 heures et 26 minutes de conduite sur 2 semaines. Ben, j'ai dit oui, mais j'ai le droit à 47 heures par semaine, donc 94 heures, donc 90 heures, 26 minutes. Non, loi européenne, etc. Et à partir de là, je ne comprends plus rien, il m'a hypnotisé. Donc, vous avez 26 minutes en trop. 90 heures de conduite, je ne parle pas des chargements et des chargements, juste la conduite. 26 minutes sur 2 semaines en trop. 135 euros d'amende. Et il a fallu que je dise merci au gars, parce qu'en plus, il n'était pas agressif, il ne faisait que son boulot. Donc voilà, 135 euros, c'est le prix, à peine le prix d'un caddie. Moi, quand je fais le plein pour la maison, pour mes gosses, ma gonzesse, ça me coûte 40 ou 50 euros de plus par semaine. Donc, 135 euros de moins. Quand tu ne trouves pas un restaurant dans les délais, c'est pareil. Hein. Si tu roules un quart d'heure de trop pour trouver un restaurant le soir, déjà que tu ne manges pas le midi, la plupart du temps, tu n'as pas le temps à cause des 35 heures. Tout le monde fout le camp de bonheur, donc il faut rouler la nuit pour pouvoir livrer dans les heures ouvrables. Ce métier devient de plus en plus pénible. J'ai 2 disques écrasés, j'ai 30 ans de route, j'en ai plus que marre.
Salut les AMG, le repère de Briouze dans l'Orne, canal historique et non pas hystérique, se tiendra de nouveau le mercredi 28 septembre à 17h au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit. Le 28 à 17h à Briouze. Salut les AMG.
Isabelle Balkany a été battue, écrabouillée. Oh putain, quel pied. Mais quel pied, mes amis. Oh pardon, je voulais dire quelle tristesse. Oh, je suis triste et j'espère être triste pendant les législatives pour son mari. Oh, j'espère que je vais être triste encore comme aujourd'hui pour elle. C'était un message de Hamid de Rennes. Merci, au revoir.
Bonjour, Jean-François, département du Rhône, à Tizi. Je vous appelais, c'était pour vous dire que dans le lycée de ma fille, le lycée François Mansart de Tizi, il manque toujours 3 professeurs dans la classe de seconde de ma fille. Donc un professeur d'anglais, un professeur d'allemand et un professeur d'histoire géo. Donc pour l'allemand, pour l'instant, c'est un autre professeur qui assure 50% des cours. Et pour le prof d'histoire géo, on vient d'en récupérer un qui, du jour au lendemain, a été muté d'un lycée voisin sur Tarare pour le mettre chez nous. Et donc, c'est le lycée de Tarare qui n'a plus rien. Voilà, donc s'il pense supprimer, faire des économies, je pense qu'il devrait aussi supprimer un député sur 2, un ministre sur 2, un sénat sur 2. Comme ça, tout le monde sera mis pied d'égalité. Je vous remercie.
Monsieur Sarkozy ne devrait pas essayer de monter le public contre le privé. La mayonnaise ne prend pas. Nous sommes tous des salariés qui se levons le matin pour gagner notre pain. Nos salaires n'ont plus augmenté dans le privé depuis longtemps. Nos conditions de travail se dégradent et nous savons que l'État ne se comporte pas mieux que les employeurs du privé. Nous soutenons les instituteurs et les professeurs de nos enfants en grève pour améliorer leur accueil. Les privilégiés, ce sont les gens extrêmement riches que M. Sarkozy n'a fait que promouvoir depuis son arrivée au pouvoir. Nous aimons et soutenons nos fonctionnaires. Nous vivons tous depuis 4 ans dans la difficulté. Nous avons tous besoin de nos services publics et nous saurons les défendre. C'était Christine Deschênes-Villers.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent ici à Jérusalem. Jérusalem, d'où me parviennent des nouvelles du front, c'est-à-dire les manifestations au sujet de l'enseignement en France. Vous avez suivi ça hier, nous avons suivi ça hier. Toute l'équipe de la BASSU, j'y suis, était sur le pont et sur le front. et vous allez en avoir aujourd'hui même les échos. On s'est interrogé sur une phrase qui nous est revenue en mémoire. Former un homme, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Former un homme, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Je croyais que la phrase était de Montaigne, et puis on a fait des recherches, et on s'est aperçu que, oui, sans doute de Montaigne, mais c'est une phrase qu'on retrouve chez les Grecs, c'est une phrase qu'on retrouve dans la Renaissance, c'est une phrase qu'on retrouve dans les Lumières, et c'est une phrase qui a disparu. Aujourd'hui, la question n'est même plus si on remplit un vase ou si on allume un feu, lorsqu'on forme un homme, la question c'est, il va falloir que le vase investisse pour pouvoir être rempli. Et ça, c'est la question d'aujourd'hui. Désormais, puisque nous sommes définitivement des individus entreprises, eh bien, il faut que nos enfants soient éduqués comme on monte une entreprise, comme on investit dans une entreprise. Voilà pourquoi on privatise définitivement l'enseignement, on va le privatiser définitivement. Définitivement, c'est pas sûr, c'est quand même pas certain. Le pire n'est jamais certain. Mais souvenez-vous quand même de ce que disait Pierre Bourdieu en 1995, que nous assistions à la destruction d'une civilisation. C'était il y a 16 ans et on peut dire que cette prophétie s'accomplit aujourd'hui en ce qui concerne notamment l'enseignement public et l'enseignement privé aussi, comme on va l'entendre. C'est notre sujet du jour. Toute l'équipe de la Bastille Suisse s'est mise en quatre sur le front et sur le pont. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, Didier de Marseille. Ce matin, le préfet, le nouveau préfet a délogé 200 Roms à l'aide de 150 policiers et gendarmes. Voilà, 6 heures du matin. Donc des enfants, des nourrissons et des parents qui sont aujourd'hui certainement sans abri. Donc le nouveau préfet commence bien son travail. Super. Au lieu d'aller déloger ceux qui sont armés et qui mènent la terreur sur Marseille, on va déloger des personnes sans armes. La politique de Sarkozy, elle est belle. À bientôt, ciao.
Bonjour à tous les AMG des Cévennes. Le Café Repère de la Bastille-Gisuy-d'Alès reprend ce mercredi 28 septembre à 19h au lieu habituel, au Vintage du Bail Café, route du Pont de Grabieux. L'actualité cet été, ma foi, fut riche en événements, avec donc autant de raisons de s'indigner. Le Repère d'Alès entame sa troisième année, alors accompagnons-le.
J'entends dire que le Sénat, c'est historique, vient de passer à gauche. Ça faisait 50 ans qu'il était à droite. Je me dis, mais il y a une autre possibilité. Et si c'était le PS qui était passé à droite?
On a bourré les classes à 35, 36, 37, jusqu'à 38. Ah ouais, comment voulez-vous faire en réussir les élèves?
Allez les étudiants, on nous prend pour des cons. Notre gouvernement s'attaque à l'éducation.
On va continuer à faire quelques évaluations du système. Alors, suppression de postes, 16 500 suppressions de postes par an, multiplié par 5. Alors, faites le calcul, 5 fois 16 500, 80 000.
Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol de ces guignols.
Qui ouvrent les prisons et ferment nos écoles.
C'est en moins de 10 ans, 200-220 000 enfants qu'on a mis à la porte de l'école.
Il n'y a plus rien dans les bahuts. Contrat aidé, rien du tout. C'est un demi-smic présent une demi-journée, deux jours par semaine maximum. C'est pas comme ça qu'on fait tourner un lycée ou un collège.
Francia, amigo, Chile, está contigo.
C'est les camarades chiliens là, qui sont venus soutenir les enseignants en lutte ici à Paris.
Alors, sur les suppressions de postes, une note pour Châtel.
Zéro, 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 zéro.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base. Je suis avec toute l'équipe. de la base où j'y suis, remplir un vase ou allumer un feu. Flight number 2, arriving from
New York. Voilà, c'est la manif contre la casse de l'éducation nationale qui va démarrer ici devant le jardin du Luxembourg, à deux pas du Sénat, qui a une majorité de gauche. Alors c'est une manifestation à l'appel de tous les grands syndicats enseignants, de la FCP aussi, donc des conseils de parents d'élèves, qui va démarrer dans quelques minutes, ici sur le boulevard Saint-Germain à Paris. Alors les slogans, c'est Sud, la casse de l'éducation, ça suffit. La Fédération des syndicats Sud Éducation appelle à la grève le 27 septembre, donc aujourd'hui, il a participé massivement aux manifs, donc c'est une journée de grève. Et les enseignants sont attendus ici pour cette manif qui va nous emmener jusqu'au ministère de l'Éducation à Sèvres, à Babylone.
C'est parti, on y va? On met les masques et on y va?
Alors là, il va y avoir une action du collectif des dépouillés.
Là, on est dépouillés, on ne sait pas quel sera l'avenir de nos enfants, quel sera l'avenir aussi de nos collègues. Et là, en l'occurrence, on est tous dépouillés, donc on fera un petit essai tout à l'heure où on sera tous à moitié nus, en fait, pour montrer comme quoi l'école nous dépouille jusqu'à l'os, quoi. Voilà.
Alors l'école est nue, c'est ça?
Ouais, l'école est nue. Allez, on met les masques.
Qui veut un masque?
Alors sur leur t-shirt, il y a un autocollant. 2000 dégraissés, 2011 dépouillés, 2012 désossés. On est au chapitre 2011, la dépouillée, et l'année prochaine, donc, l'éducation nationale sera désossée. Alors, ils sont anonymes, voilà, c'est un collectif de dépouillés anonymes, ils ont tous mis un masque blanc.
Nous proclamons aujourd'hui que l'école est nue.
Et le collectif des dépouillés se déshabille, en fait, enlève le haut.
Monsieur le ministre, qui ne respecte pas le statut de l'enseignement.
Les professeurs dénigrent symboliquement. Et un ministère qui supprime 80 000 postes de titulaires en 5 ans, qui recrute des personnels non qualifiés, précaires et sous-payés.
Monsieur le ministre, qui dénigre l'école?
Un professeur dénudé symboliquement, ou un ministre qui prétend former des citoyens avec des cours de morale, alors qu'il supprime des cours d'histoire.
Monsieur le ministre, qui s'attaque aux valeurs de la République?
Un professeur dénudé symboliquement ou un président qui affirme que jamais l'instituteur ne pourrait remplacer le curé dans la transmission des valeurs.
Monsieur le ministre, qui salue
l'image de l'enseignant?
Un professeur dénudé symboliquement ou une pseudo-réforme qui propose un seul enseignant pour un accompagnement personnalisé auprès de 30 lycéens en même temps.
Monsieur le ministre, qui ne respecte pas la démocratie sociale?
C'est un choix la plupart du temps, une vocation mais plus rarement. Quoi de plus excitant, c'est vrai, que de transmettre la pensée? C'est sans compter sur les angoisses, des premiers pas devant la classe. Tu prépares sans cesse ton entrée, les premiers mots, les petits papiers. Parce que fuis bien 50 fois la porte, le bureau, on y va. Quand tout est prévu dans l'histoire, c'est le moment d'affronter les regards. Le stress du prof,
le stress,
oh, le stress,
le stress du prof,
le stress du prof,
le stress,
oh, le stress,
le stress du prof.
Et en plus il te sourit même pas,
même pas.
Finis par flipper un max, les petits bouts de papier envolés, les mots préparés, oubliés. Si tu dis un truc à l'envers, t'emploies tout ton art pour te refaire, en souhaitant que personne n'ait remarqué. Dans le cas contraire, ça va jaser. Le stress du prof,
le stress,
oh, le stress,
le stress du prof,
le stress du prof,
le stress,
oh, le stress,
le stress du prof.
Et en plus il te sourit même pas,
même pas.
Tu finis par flipper un max. Ça y est, c'est l'heure, tout le monde dehors. Bah finalement t'en es pas mort. Te v'là tout seul dans un grand vide. Était-ce un succès ou un bide? Faudra que t'attendes pour le savoir. À nouveau d'affronter les regards. Le stress du prof,
le stress,
oh, le stress,
le stress du prof,
le stress du prof,
le stress.
Le stress,
le stress du prof.
Et en plus il te sourit même pas,
même pas.
Tu
finis par flipper.
Même pas.
Tu finis par flipper.
Même pas.
Tu finis par flipper à max. Oh la 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 la.
Postes supprimés entre 2007 et 2012. 14 000 postes qui seront supprimés bientôt. On est toujours dans la manif avec Sarah, Gaylor, Benjamin et Antoine. Ciao.
Stagiaires boivent la tasse, les élèves trinquent. Assez d'improvisation. On veut une formation sur un autre panneau. Et un petit carton posé dans le dos de l'un d'eux, stagiaire impossible. Alors, on est aux côtés de stagiaires. Alors, c'est quoi les stagiaires ?
C'est quoi les stagiaires ? On est une organisation de stagiaires, en fait. On a créé un collectif l'an dernier, suite à la réforme de la formation des enseignants. On a revendiqué un retour au tiers-temps, parce que les stagiaires arrivent maintenant à plein temps devant les élèves, sans formation. Donc c'est un petit peu compliqué quand même, pour pas dire autre chose.
Sans formation pédagogique ?
Sans formation pédagogique, ouais. On sort de fac et on est certes très bon dans nos disciplines, mais on ne sait pas les enseigner. Apprendre, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc on a créé ce collectif l'an dernier, début octobre. On a été reçus pas mal de fois au ministère, au rectorat, etc.
Un collectif qui s'appelle Stagiaire Impossible.
C'est ça, tout à fait, Stagiaire Impossible.
Et comment tu t'appelles ?
Clara.
Tu es enseignante où ?
Moi, je suis enseignante dans un collège à Sevran, qui s'appelle Pablo Neruda.
Et tu es enseignante que dans ce collège-là, toi ?
Oui, ouais, je suis en zone de remplacement, mais que dans ce collège-là. J'ai après des collègues qui sont sur trois bahuts différents. Moi, j'ai eu du bol. C'est la loterie, hein, de toute façon.
Et tu enseignes quelle discipline ?
L'anglais.
Et alors, comment tu le sens, justement, d'enseigner l'anglais sans avoir été formée pédagogiquement ?
Nul. Très nul.
C'est dur ça d'exercer son métier en se
sentant nul. On a eu quelques formations l'an dernier, je suis néo-titulaire hein, cette année, j'étais stagiaire l'an dernier. On a eu quelques formations mais j'étais en lycée. Cette année j'arrive en collège, bah, je recommence, sauf que j'ai même plus un coup de main de tuteur ou de formateur pour m'aider, c'est très compliqué quoi. Donc forcément on se remet beaucoup en question, quand un cours se passe mal, bah, on a du mal à savoir pourquoi aussi, parce qu'on n'a aucune base solide finalement. Est-ce qu'on donne les bons bagages aux gamins je sais pas, on n'est pas armé pour le faire, donc c'est grave, c'est très très grave.
Et alors, t'es pleine d'enthousiasme là, t'arrêtes pas de sourire ?
Ah, toute pleine d'enthousiasme, on va pas m'enlever mon enthousiasme, ça c'est clair. Toute pleine d'enthousiasme, mais je pense qu'on est enthousiaste aussi parce qu'on se bat. À partir du moment où on n'est pas en train de courber les chines, on reste enthousiaste, on reste battant et on est là. Parce qu'on est quand même le seul pays, je pense, du monde qui se permet de balancer ses professeurs devant des élèves sans les former. C'est fou quand même. On est la cinquième puissance mondiale, je crois. On ne forme pas les profs. Une blague.
Faut que ça change. Éducation nationale, faut que ça change. C'est l'UNSA, le service public au cœur. La manif contre la casse de l'éducation nationale qui passe sur le boulevard Montparnasse.
Bernadette Groisan, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire général de la FSU, Fédération syndicale unitaire.
Oui.
Il y a une forte mobilisation aujourd'hui du syndicat enseignant ?
Oui, très forte mobilisation partout en province. Beaucoup de monde dans les 100 manifestations, beaucoup de monde à Paris, un personnel sur deux de l'éducation en grève. Et qu'ils sont venus dire qu'aujourd'hui, c'est aussi en termes de réforme éducative, de politique éducative, qu'il fallait repenser les choses.
Est-ce que vous pouvez dresser un bilan de l'enseignement aujourd'hui, après 4 ans de réforme ?
Après 4 ans de réforme, on voit les résultats avec une baisse de la scolarisation des moins de 3 ans. Hein, 150 000 élèves de moins de 3 ans qui sont à la porte de l'école maternelle. Des élèves qui, en lycée, n'ont pas le choix de leurs options compte tenu des suppressions d'options dans les lycées. Des problèmes de remplacement des enseignants, puisqu'on a déjà à cette rentrée utilisé 3/4 du potentiel de remplaçants pour assurer, comme le dit le ministre, une rentrée techniquement réussie. Une formation des enseignants qui n'en est pas une, où on demande un master à nos jeunes collègues et où on les met directement sur le terrain. Des effectifs très chargés dans les classes. Bref, aucune souplesse possible pour faire fonctionner une école qui soit digne du 21e siècle, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre en charge des publics scolaires bien différents de ce qu'on a connu ces dernières années, de prendre en charge une difficulté scolaire qui persiste, toutes les études internationales le montrent. On est confronté à ce noyau dur de l'échec scolaire, à ces sorties sans qualification l'éducation et on n'a pas les mesures, la politique éducative qui permettent de s'en sortir. Et on a un ministre qui nous explique que comme il a un budget contraint parce qu'il doit supprimer un personnel sur deux partant à la retraite, eh bien à partir de là, il essaye de nous convaincre qu'il va faire de la qualité. Non, nous on veut partir des besoins, partir de la réalité de notre système éducatif et à partir de là, y mettre les moyens nécessaires. On est en queue de peloton. Vous prenez PISA qui a révélé la forte corrélation entre inégalité sociale et inégalité scolaire, confirmée par le récent rapport de l'OCDE.
L'Organisation pour la coopération et le développement économique.
Voilà, qui nous dit qu'on a un taux de scolarisation des 15-19 ans qui diminue, une dépense de l'éducation qui n'augmente pas, un poids justement confirmant PISA des inégalités sociales dans le taux des réussites scolaires de nos élèves.
Le rapport de l'OCDE, regard sur l'éducation 2011, montre que dans les pays de l'OCDE, donc des pays dits riches ou développés, la France est un des pays les plus inégalitaires en matière d'accès à l'éducation.
Oui, c'est un des paradoxes. On est dans un pays riche et on est dans un système très inégalitaire et qui même développe une éducation à plusieurs vitesses. Aujourd'hui, on a des pays plus pauvres que la France, des pays émergents qui misent sur l'investissement dans l'éducation pour sortir de la crise. Et nous, on se le défend en France. Donc je crois qu'il est temps de remettre les choses sur leurs pieds, de se dire que si on repense le budget, si on ose penser une réforme de la fiscalité, si on va chercher quelques niches fiscales, on est un pays qui a les moyens d'investir dans l'éducation aujourd'hui.
Autre chose maintenant, un nouveau déplacement de Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État était ce matin dans l'Oise. Il a visité une entreprise qui investit dans les biocarburants. Et le président de la République, en parlant de l'industrie et de ses emplois, a aussi évoqué la grève des enseignants. Écoutez-le.
TF1, 27 septembre 2011.
Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des protestations. C'est normal dans une démocratie. Et mon devoir de chef de l'État, c'est d'abord de penser aux ouvriers, aux salariés et aux cadres qui sont lancés dans la compétition internationale et qui ont besoin du soutien de l'État. Plus que de penser à ceux qui ont un travail difficile, mais qui ont un statut qui les protège.
Christian Laval, donc je suis professeur de sociologie à Paris 10 et donc je viens de publier avec des collègues un livre qui s'appelle La Nouvelle École Capitaliste, qui est le fruit d'un travail commun que nous avons réalisé depuis quelques années.
Et vous êtes dans la manif aujourd'hui donc.
Mais je suis enseignant aussi et donc je me bats aussi pour l'ensemble de mes collègues et d'une cause que je trouve absolument juste.
Alors la nouvelle école capitaliste, ça préfigure ce qui est en train de se passer aujourd'hui, cette manifestation, ce mécontentement quoi.
En fait, le livre, me semble-t-il, peut aider à comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire le fait qu'il y a des milliers de gens dans la rue, qui sont profs, qui sont parents, qui sont étudiants, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a évidemment un sabotage du service public avec la réduction du nombre de postes, 80 000 postes en 5 ans. Bon, et puis la destruction de dispositifs aussi importants que l'aide aux élèves en difficulté, la formation des enseignants, enfin bon, tout ça maintenant est connu, ça c'est le point essentiel. Mais ce qu'il y a derrière est moins connu. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une transformation du modèle d'école. Et cette transformation du modèle d'école et d'université, eh bien, on peut le lire quasiment en toutes lettres dans un certain nombre de rapports, d'études qui relèvent de la littérature grise, celle des institutions internationales, mais aussi de temps en temps dans des aveux qui sont lâchés en quelque sorte à l'insu du plein gré d'un certain nombre de députés de droite, de l'UMP ou de secrétaires d'État comme Benoît Apparu, qui disent quoi ? Qui disent que si on met en difficulté le système scolaire, si on réduit ses moyens, si on l'affaiblit, eh bien on aura des arguments pour imposer une réforme au goût du monde des entreprises, disons d'inspiration néolibérale. Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, on a un peu l'application de ce que Naomi Klein appelait la stratégie du choc. Mettre en crise les systèmes de protection sociale, mettre en crise les systèmes éducatifs pour imposer des réformes, pour dire ça va pas, ça va de moins en moins bien.
Donc cette manifestation fait partie de la stratégie, quoi, quelque part.
Habile. En fait, ce qui n'est pas totalement prévu dans la stratégie, c'est la réaction des personnels, encore qu'elle peut être intégrée, évidemment, mais ce qui n'est pas très bien calculé, c'est le fait que désormais, il y a une meilleure perception du sabotage en question, du sabotage délibéré. Et donc une réaction des parents aussi. On l'a vu au printemps dernier. Ce qui était très frappant, c'est que les parents occupent les écoles, dorment dans les écoles, vont chahuter les inspecteurs d'académie. en leur disant que ce n'est plus supportable, parce qu'on sacrifie leurs enfants au profit de calculs, je dirais, comptables à court terme. Au fond, je crois que désormais, les gens en ont assez et comprennent qu'il ne faut plus jouer avec l'avenir des gosses, avec l'avenir du système scolaire. Alors voilà, donc ce qui... Pour nous, les auteurs du bouquin dont vous parlez...
Alors, on va les citer. Donc Christian Laval, vous-même, Francis Vergne, Pierre Clément et Guy Dreux.
Voilà. Donc, nous travaillons depuis des années, finalement, dans le cadre de l'Institut de recherche de la FSU, sur les politiques éducatives néolibérales, c'est-à-dire celles qui se sont mises en place, en gros, il y a une vingtaine d'années, pour construire ce modèle d'école capitaliste. Une école capitaliste, c'est quoi ? C'est une école qui s'organise en fait selon une logique de marché, selon une logique de concurrence. On met tout le monde en concurrence, c'est-à-dire on met les enseignants, les familles en concurrence, on met les élèves en concurrence, et ils le sont déjà, mais de plus en plus, et on met aussi les établissements, qu'ils soient scolaires ou universitaires, en concurrence, et on pense que finalement, comme on devrait le voir, comme on serait censé le voir dans le monde économique, eh bien, il devrait en résulter des gains de productivité, de la rentabilité, donc des possibilités de réduction des effectifs, etc. Donc, vous voyez, le gouvernement actuel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé par réduire les effectifs. Il réduit d'abord les effectifs pour imposer cette réforme. Donc, cette école néo-capitaliste, cette nouvelle école capitaliste, c'est l'école donc conduite par une logique de marché, une logique de concurrence. Mais c'est aussi, et complémentairement, une école qui doit s'organiser, se réorganiser comme s'il s'agissait d'une entreprise. Vous voyez la complémentarité ? Un marché, des entreprises. Donc, on a introduit petit à petit, on a instillé dans le système des logiques managériales. On a voulu mettre en place des patrons qui dirigeraient des établissements, qui seraient dotés finalement d'une plus grande autonomie dans la gestion, d'un pouvoir plus grand sur leurs salariés, s'il s'agit de ça. On a voulu finalement mettre en place un rapport salarial typique de l'entreprise capitaliste au sein même du service public, avec ce que nous appelons dans le bouquin une véritable prolétarisation des enseignants.
Daniel Breuillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire d'Arcueil.
Exact, depuis 14 ans.
Et vous manifestez aujourd'hui ?
Je tenais à être aux côtés des manifestants et à manifester moi-même parce que trop, c'est trop. Voilà, l'éducation nationale, c'est d'abord un investissement, un pari sur la jeunesse. Je suis maire d'une ville de banlieue. Il y a des jeunes, des enfants qui ont besoin d'une qualité d'encadrement et d'accompagnement pour pouvoir s'épanouir dans notre société. Et je vois d'année en année les conditions se dégrader. Des classes surchargées en maternelle, on refuse les mômes de moins de 3 ans, plus de réseau d'aide aux enfants en difficulté, on recrute maintenant à la NPE des profs de maths, non, c'est pas possible. Voilà, nous on se bat les maires pour avoir de la cohésion sociale, c'est pas pour qu'ensuite les ministres cassent tout ça à coup de mesures scandaleuses.
Il n'y a aucun recours pour les maires ?
On commence à engager parfois des actions au tribunal administratif lorsque la scolarisation obligatoire n'est pas réussie. Ma collègue maire d'Orly a engagé un recours contre la non-scolarisation d'un certain nombre d'enfants. Il vient d'y avoir des familles qui ont engagé un recours contre la non-scolarisation de mineurs de moins de 16 ans alors que la loi le rend obligatoire. Et hélas, je pense qu'on va aussi utiliser maintenant le recours juridique à côté des moyens politiques. Mais vous savez, la question, c'est d'abord une question politique. On ne peut pas donner beaucoup au Bettencourt, exonérer beaucoup de charges des grandes entreprises et puis continuer à supprimer les moyens sur ce qui est essentiel. L'éducation, c'est d'abord un investissement, c'est pas d'abord une dépense. C'est connu depuis très longtemps. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait « Ouvrez une école, vous fermerez une prison ». Eh bien, si on malmène l'éducation, on est en train de malmener une génération. Et nous qui sommes maires, nous en voyons les conséquences immédiates et au quotidien. Et c'est ça que j'aimerais beaucoup que les députés qui votent les lois de finances soient aujourd'hui dans les écoles à regarder la dégradation des conditions d'enseignement pour les jeunes enseignants et la dégradation des conditions d'accueil des enfants.
Clara, Gaylor, Benjamin et Antoine.
Et vous êtes aussi en train d'arborer fièrement une grande pancarte depuis le début de la manifestation.
C'est écrit quoi ? D'abord en colère, parce qu'on on réclame pas seulement des postes, on réclame aussi du respect, parce que l'enseignant n'est plus respecté. La morale qu'on demande d'appliquer à l'école, qui n'est pas appliquée à la tête de l'État. Ben, on voit ce qui se passe, on voit bien que la politique est de moins en moins éthique. Et donc on nous demande, nous, de l'instruction civique, il faudrait être cohérent et appliquer déjà à soi-même, au plus haut niveau, le civisme. Enfin, ce qu'on réclame, nous, c'est du social. D'ailleurs, j'ai apporté ma règle. Ma règle, parce qu'on réclame une règle d'or.
Sociale. Alors là, vous avez une règle d'école. Hein,
c'est... Oui. Et je suis moi-même maître d'école. Et donc, on veut une règle d'or sociale, parce qu'on parle beaucoup de règles d'or, un respect de l'enseignant, mais aussi du système d'éducation et de tout le système social qui vraiment se dégrade totalement par la politique actuelle du gouvernement qui privilégie que les riches et qui laisse tomber tous les services publics.
Vous pouvez me dire ce qui est écrit sur votre pancarte ?
Fidèle au poste. Je suis sur un jeu de mots, donc on est fidèle au poste, on veut des postes.
Alors là, on est avec un instituteur donc qui arbore ce panneau fidèle au poste. De l'autre côté, c'est marqué pour une règle d'or sociale.
Avec une règle graduée.
Et vous êtes instituteur où vous
pouvez... À Paris, dans le 13e. Le moral des enseignants partout a été entièrement cassé. On est dégoûté et révolté.
Alors c'est contradictoire parce que moi j'ai lu une déclaration de Luc Châtel la semaine dernière qui s'était félicité que la rentrée scolaire se soit déroulée dans le calme.
Oui, mais il faudrait que les ministres en fait, ils prennent une classe durant un mois en ZEP et ils verraient ce que c'est. Une classe à plus de 30. Et là, ils pourraient vraiment dire, parce que le problème avec tous les gens qui sont en politique au poste, c'est qu'ils font des réformes sans connaître le vrai métier. Et en fait, il faudrait vraiment créer un système où chaque ministre fasse durant un mois. Par exemple, infirmier, enseignant, postier, journaliste, dentiste, ouvrier du bâtiment, avec la paye afférente. Et là, il verrait vraiment, là il pourrait voir quelles mesures il faut prendre. Les gens ne sont pas consultés, on en a marre, on en a ras-le-bol, et c'est pour ça qu'on est tous des indignés quelque part.
Bon, bah, je vous laisse brandir bien haut votre panneau, faiblissez pas. Hein.
Non. Bah, moi, dans ma tombe, j'aurai un double fond pour aller manifester. Il y a des millénaires de révolte.
Un double fond pour aller manifester ?
Un double fond dans ma tombe pour aller manifester, oui, monsieur.
Se sont mobilisés aussi, il y a tout un cortège de lycéens. Salut. Alors vous êtes
Résistance.
Vous êtes Résistance,
ouais. Ouais.
D'accord. Ouais, ouais. De Lamartine. Alors c'est où Lamartine ?
C'est dans le 9e, plus du faux. Ouais, c'est...
On est indigné.
Vous êtes indigné. Voilà, vous êtes tous indignés là. Alors vous êtes en quelle classe ?
Ouais, seconde.
Seconde. Et nous, vous, dans votre lycée, il y a eu des classes en moins. Comment ça se passe ? Vous sentez le désengagement
ouais,
de l'État ?
On est 40 par classe, quoi, ça se voit, ouais.
Vous êtes 40 dans votre classe, vous êtes 40 ?
Dans ma classe, on est 37.
Et vous voulez faire quoi dans la vie ?
J'aimerais bien faire du photojournalisme. Voilà, après, ça se fait ou ça se fait pas. C'est une...
Et là, on vous donne les moyens d'y arriver, vous pensez ?
Non, apparemment, on ne pousse pas à faire ce qu'on a envie. Moi, j'ai envie d'être designer et puis ils s'en fichent un peu complètement. Enfin, ils ne nous poussent pas à aller plus loin, quoi.
Mais ils vous accompagnent pas, quoi, dans ce que vous voulez.
Mais...
Alors, ils vous proposent quoi ?
52 000 postes supprimés en 4 ans, c'est énorme, quoi. Donc, faut arrêter au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour justement lutter contre ça, quoi.
Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez des masques ? Pour reprendre les cœurs antiques de l'Antiquité, montrer que c'est ce qui se passe, ce qu'on fait à l'école, c'est une véritable tragédie.
Et moi, je mets un masque parce que je suis juste parent d'élève et ça fait 2 ans que je m'insurge contre les non-remplacements de profs. Et je me dis que ça, c'est peut-être un moyen de se faire voir parce que ça fait 2 ans qu'on milite, nous parents, hein, pas professeurs, et on n'arrive à rien. Et c'est la mort de l'éducation nationale pour nos enfants, donc j'espère qu'avec ces masques, on va nous voir et nous entendre.
Vous vous appelez comment ?
Je m'appelle Catherine Charmé. Nous, on est à l'école Frédéric Joliot-Curie à Saint-Ouen, dans le 9-3.
Vous êtes parent d'élève et votre enfant, il est en quelle classe ?
Moi, celle-ci est en CE2 et j'en ai une en CM2.
Est-ce que vous constatez concrètement, vous, dans leur quotidien, la diminution des professeurs, des aides aux enfants ?
Ah bah, c'est pas difficile, nous, cette année, donc les contrats aidés ne sont pas renouvelés. Donc ça veut dire que la directrice de l'école n'a plus d'assistante administrative et nous n'avons plus d'assistante d'éducation. Ça veut dire que cette année, nous n'aurons plus de décloisonnement lecture et nous n'aurons plus, par exemple, de cours d'informatique.
Est-ce que vous pensez que dans le 9-3, on est un peu plus défavorisé qu'ailleurs, justement, dans le centre de Paris, par exemple ?
On est en classification ZEP, zone d'éducation prioritaire, qui arrive encore à se maintenir cette année. Donc sur ça, on ne râle pas trop. Mais sur, par exemple, les professeurs non remplacés, l'année dernière, on a eu plus de 1000 demi-journées d'absence de professeurs non remplacés. Sur une année scolaire, c'est énorme.
Et dans ces cas-là, les enfants, ils n'ont pas cours, ils font quoi ?
Non, ils sont mis dans des classes d'accueil. Donc ça veut dire qu'elle, par exemple, qui était en CE1 l'année dernière, elle est allée en CM2, donc elle ne peut pas du tout suivre, ou elle suit un temps soit peu. Donc elle, elle perd sa journée. Les enfants de CM2 de la dite classe perdent aussi un peu de temps parce que forcément, ils sont un petit peu perturbés par l'arrivée de ces 4-5 élèves dans leur classe, qui n'est pas leur classe initiale.
Comment ?
J'ai dû aller en CM2 pendant une semaine.
Alors que tu étais en CE2, c'est ça ?
En CE1.
En CE1. Tu t'appelles comment ?
Léonie.
Et t'as fait quoi alors pendant cette semaine-là ?
Bah, j'ai juste écrit des histoires.
Elle a un petit peu suivi le cours d'histoire, ça c'est intéressant, mais il n'y a pas cours d'histoire toute la journée, donc elle a dessiné. Voilà.
Donc c'était un peu de la garderie finalement ?
Oui, c'est totalement de la garderie, ouais, mais c'est pas le rôle de l'école d'être une garderie.
Luchatel, demain, il y aura la présentation de la nouvelle loi de finances.
France Info, 27 septembre 2011.
En Conseil des ministres, allez-vous confirmer la suppression de 14 000 postes à la rentrée prochaine ?
Mais le président de la République a eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises qu'il s'était engagé vis-à-vis des Français à ne pas remplacer la moitié des fonctionnaires qui
partent
en retraite.
Oui.
Donc, nous ne remplacerons pas la moitié des enseignants qui partent en retraite l'année dernière, c'est-à-dire environ 14 000 personnes.
Et il nous reste 30 secondes, Luchatel. Gagner un peu moins de 2 000 euros au bout de 10 ans d'ancienneté. Est-ce que vous pensez que c'est motivant pour un enseignant ?
Je pense que c'est insuffisant et je l'ai dit à plusieurs reprises. Quand on compare la rémunération de nos enseignants et ce qu'elle est dans d'autres grands pays développés, nous avons à progresser. Mais les finances de l'État sont telles qu'on ne pourra pas progresser en augmentant le nombre de fonctionnaires.
Bonjour, Jean-Jacques Cazan ?
Oui.
Vous êtes président du FCPE ?
Oui, la Fédération des conseils de parents d'élèves, FCPE.
Qu'est-ce qui inquiète les parents d'élèves dans cette rentrée ?
La situation de la rentrée, la situation dans les classes. Ce qui est très inquiétant, c'est aussi le nombre d'enfants qui n'ont pas pu avoir de place à l'école. Tous les enfants de moins de 3 ans qui sont encore une fois laissés à la porte. Je pense qu'il y en a 20, 25 000 cette année de supplémentaires par rapport à d'habitude. C'est en moins de 10 ans, 220 000 enfants qu'on a mis à la porte de l'école. C'est les 11 000 avoués par le ministre. Les 11 000 élèves qui ne sont toujours pas affectés dans les lycées professionnels ou dans les lycées généraux, sous prétexte qu'ils ont plus de 16 ans ou que leur orientation ne convient pas à quelqu'un, alors que l'orientation, elle devrait être choisie. Et puis, c'est la situation dans les classes en primaire, après les fusions qu'on a vues, les fermetures de classes, et puis les suppressions de 6 000 enseignants qui vont dégénérer à coup sûr à partir de dans 2 semaines, avant même les vacances de la Toussaint, où on verra 70, 75, 80 000, 100 000 enfants de 3 à 10 ans qui n'auront pas d'enseignants. En plus, chaque matin, par rapport à déjà ce qui ne marchait pas l'année dernière, ça va faire très très lourd.
6 000 suppressions de postes dans le primaire ?
6 000 suppressions de postes de remplaçants en primaire. Il y a 3 400 suppressions de classes et de postes en primaire, plus 6 000 suppressions de remplacement. Ça fait beaucoup d'enfants sans enseignants, hein, tous les matins.
Est-ce qu'on peut former des futurs citoyens de cette manière-là, avec ces moyens ?
C'est pas ce qu'on pense à la FCPE. On pense qu'il s'agit d'investir dans l'éducation, que ce qui est nécessaire, c'est remettre la priorité là où elle doit être, et que c'est ça qui doit être prioritaire. Certes, certains dans les municipalités préfèrent travailler sur les ronds-points que sur les écoles. Au ministère, on préfère réfléchir à des réductions d'impôts plutôt qu'à la manière dont on va développer l'école, à chercher des ersatz de solutions avec des demi-heures ou de cours individuels plutôt que d'aménager ce qui se passe en classe. Et ça, on ne pourra pas le faire, bien évidemment, sans moyens supplémentaires. Ce qui est tout à fait scandaleux, c'est qu'on a des députés qui, en circonscription, viennent pleurnicher parce qu'on leur ferme une classe et puis qui, à l'Assemblée ou au Sénat, votent la suppression de 16 000 postes et ne s'aperçoivent peut-être pas des conséquences que ça génère dans leur propre endroit. Et on appelle à finir avec les doubles discours. Les solutions qui sont choisies par le gouvernement français ne sont pas bonnes pour l'école. Elles ne parviennent pas à réduire les inégalités, bien au contraire. Elles ne parviennent pas à améliorer le taux de scolarisation, puisque le taux de scolarisation des 15-19 ans a baissé. Ce n'est pas comme ça qu'on réduira les inégalités et qu'on arrivera à ce que l'école soit plus émancipatrice. Je vous rappelle que, alors qu'aux États-Unis, on est à un enseignant pour 15 élèves, en Finlande, en Suède, etc., on est à 1 pour 12, 1 pour 11 même parfois. En France, on est à 1 pour 20. Alors bien sûr, avec ça, c'est très difficile de trouver d'autres méthodes pédagogiques, d'améliorer les choses. Et c'est très difficile, dans une période où il y a une perte de confiance importante entre les enseignants et leur propre ministère, d'arriver à transformer l'école.
Alors que faire pour transformer l'école ?
Il faut pour nous changer profondément les relations pédagogiques en classe, mais en même temps, il faut remettre l'éducation au centre et l'éducation comme une vraie priorité, et en particulier l'école primaire comme une vraie priorité. On voit bien que c'est là que les inégalités commencent à se recreuser et qu'il n'est pas normal qu'on ne fasse rien sur ça et qu'on cherche simplement à enlever des moyens. Aujourd'hui, on est sur une politique qui se gère par les moyens, où l'éducation est gérée simplement comme une contrainte et comme un coût, alors que en fait, ce qu'il s'agit d'avoir, c'est que ça soit un vrai investissement, un investissement pour l'avenir. Et si on veut une économie de la connaissance et que la France soit un pays développé dans cette économie de la connaissance, il est largement temps d'inverser la vapeur sur les moyens.
Moi je tranche et je rabote, moi je rabille et je pinaille, moi je rogne et je chipote, moi j'agote et discutaille.
Si t'es trop vieux, je te remplace pas, si t'es trop jeune, je t'embauche pas.
Je suis monsieur moins de fonctionnaire, je suis monsieur moins, je sais qui plaire. Je suis monsieur moins de fonctionnaire, je suis monsieur moins, je sais qui plaire.
La formation, ça forme des cons, mais ça coûte un max de pognon.
L'IUFM, je fais sauter, ce sera toujours ça de gagner.
L'agrégation, c'est juste bon à enrichir de moi.
Je vais supprimer et sans pitié, belle façon d'économiser.
Je suis monsieur moins de fonctionnaire. Je suis monsieur moins, je sais à qui plaire. Je suis monsieur moins de fonctionnaire. Je suis monsieur moins, je sais à qui plaire.
L'histoire géo en terminale, franchement, ça sert à que dalle.
Je fais sauter 2 heures gagnées et autant de pépettes de côté.
Les DHG, c'est compliqué, c'est donc facile à trafiquer.
1 heure de moins par-ci par-là et personne ne s'en aperçoit.
Je suis monsieur moins de fonctionnaire. Je suis monsieur moins, je sais à qui plaire. Je suis monsieur moins de fonctionnaire. Je suis monsieur moins, je sais à qui plaire.
Moi je le crie pas, moi je le fais, moi le mammouth je le dégraisse. Je taille dans le gras et ça me plaît, je n'ai aucun doute, je le confesse.
Moi je le crie pas, moi je le fais, moi le mammouth je le dégraisse. Je taille dans le gras et ça me plaît, je n'ai aucun doute, je le confesse.
Alors, complètement par hasard, je retrouve mon professeur de collège d'histoire. Alors je lui ai demandé un petit peu comment ça se passe pour l'enseignement de l'histoire aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Kuckerman.
Oui, c'est ça.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. On manifeste pour défendre l'éducation nationale, tout au moins ce qu'il en reste, et pour faire en sorte qu'on puisse reconstruire quelque chose le plus rapidement possible, parce que la situation, elle est grave. Elle est grave pour les profs, qui voient leurs conditions de travail vraiment se dégrader, mais elle est grave pour les élèves qui n'y trouvent plus leur compte. Puis elle est grave pour le pays, parce que à force de dégrader les contenus d'enseignement dans toutes les matières ou presque, à force de nous dire que ce qui compte c'est plus de savoir mais ça serait d'avoir des compétences, eh bien c'est l'avenir même du pays qui est en cause, parce que c'est la reformation des cadres. Je crois que la réforme des lycées qui s'inscrit après celle des collèges, c'est une réforme qui pose des questions, pas seulement aux enseignants, mais qui doit poser des questions aux forces vives de la nation. Parce que c'est ça qui est un petit peu en jeu, c'est quel avenir on voit pour le pays, pour la jeunesse. Et là, je dois dire que les gens qui nous gouvernent et le patronat qui pilote tout ça, il n'a pas la même conception, évidemment, que ceux qui travaillent et qui n'ont pas des milliards à dépenser.
Vous êtes professeur d'histoire au lycée Descartes, Anthony ?
Oui, je suis professeur d'histoire, oui. En histoire, c'est particulièrement dramatique parce que les programmes, c'est devenu quelque chose qui est une espèce de saupoudrage. Il n'y a plus d'activité réelle, à la fois l'acquisition des connaissances et de réflexion sur la connaissance, parce que ce sont quand même des disciplines scientifiques, et on nous fait croire que ce seraient des techniques, ce qu'ils appellent des savoir-faire, des compétences, qui visent à remplacer en fait finalement les examens, de manière à pouvoir mettre des concours, notamment à l'entrée à l'université, qui font que l'université sera de plus en plus réservée à des gens qui sont issus des couches sociales, qui elles auront la culture, y compris à travers l'école privée d'ailleurs.
Comme aux États-Unis ?
Comme aux États-Unis, comme en Angleterre. Alors avec en plus un petit élément supplémentaire, c'est que tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui le système anglo-saxon est en crise et que nous, c'est le moment où on l'adopte quand même, ce qui est quand même problématique.
Il y a la France, il y a une marge de manifestation, un coup du monde.
votre pancarte. Alors c'est de l'anglais, hein. J'essaie de prendre l'accent. If you think education is expensive, try ignorance. Ce qui veut dire, si vous pensez que l'éducation c'est cher, essayez l'ignorance. C'est une citation d'Abraham Lincoln. Vous avez mis les dates, 1809-1865. Pourquoi avoir ce panneau ?
Parce que je crois que c'est complètement dans le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous coupe les vivres et ça va forcément finir par promouvoir l'ignorance, alors qu'il faut absolument promouvoir l'éducation, il faut sauver l'éducation, c'est pour ça qu'on est là.
Alors vous êtes quoi ? Vous êtes prof ? Vous êtes
prof, ouais, prof d'anglais.
En lycée, collège ?
Collège et lycée, privé.
Privé.
Ouais.
Vous faites partie des gens du privé qui se sont joints au public aujourd'hui ?
Absolument, ouais, parce que pour la première fois depuis 86, les syndicats du privé ont fait un appel à la grève. Mais on a déjà fait d'autres manifs. On est un petit peu apolitique aujourd'hui, on défile de façon anonyme, sans rallier de syndicats particuliers, parce que voilà, on est tous profs et on se bat tous pour la même chose.
Alors, dernière fois, en 86, c'était pour l'école libre.
Absolument.
Et là, qu'est-ce qui vous a donné envie de sortir dans la rue? Parce que c'est pas souvent qu'on voit des profs du privé manifester aux côtés du public.
Bah, en fait, c'est pour nos élèves qu'on est là, hein, parce que je crois qu'ils méritent mieux que d'être entassés à 38 par classe, avec des profs en face d'eux qui sont fatigués. Surtout pour ceux qui arrivent en fin de carrière, ils sont fatigués, qu'on les prenne pour des cons. Fatigués qu'on leur promette zéro suppression de poste alors qu'on en a supprimé 12 000 dans le privé. Il faut absolument que ça arrive à zéro et il faut nous donner les moyens de faire notre boulot correctement, parce que c'est un boulot fabuleux si on nous donne les moyens de le faire correctement.
Et vous êtes fatigué ? On est que fin septembre.
Non, moi je suis pas fatiguée, moi j'ai la rage. J'ai envie de changer les choses, j'ai envie de tout faire pour que mes élèves, pour que mon fils puisse suivre une éducation digne de son. Voilà, il faut arrêter Châtel. Châtel, il met ses gosses dans le privé, donc voilà, ils sont dans le 16e, dans un établissement privé. Mais non, je lui demande déjà de se barrer parce qu'il n'a rien à faire là et de mettre des gens compétents.
Vous êtes prof d'anglais. Moi, dans ma scolarité, par exemple, j'ai fait anglais, deuxième langue, certes. Mais j'avais fait le calcul un jour et j'avais calculé que je parlais entre 40 et 50 minutes d'anglais par an.
Exactement.
Et j'avais étudié l'anglais pendant donc à peu près 7 ans. 7 ans, c'est ça, hein.
LV2, c'est...
Donc ça me fait un peu moins en fait de 7 heures d'anglais. Ça doit faire autour de 6 heures parlées. Voilà. Donc je me suis dit que c'est pour ça que je parlais pas très bien anglais. On l'a vu tout à l'heure quand j'ai lu la pancarte. C'est un des problèmes en fait qui se pose.
Les effectifs de classe, enfin 38 élèves pour enseigner une langue vivante par exemple, vous imaginez faire classe devant 38 élèves et leur apprendre des choses, favoriser un temps de parole pour chacun, pour l'acquisition des savoirs, c'est impossible à 38. Et je vois
vous
pas
avez pourquoi. 38 élèves dans votre classe.
Alors moi j'ai une collègue qui est en... Moi j'en ai 34 et j'ai une collègue qui a 38 élèves en espagnol. Voilà, donc pour une langue vivante c'est compliqué. Moi j'en ai 34 en seconde, ouais absolument. Je vois pas pourquoi on aurait moins de problèmes dans le privé que dans le public, on fait le même métier dans les mêmes conditions.
Je pensais que dans le privé, justement, c'était des conditions plutôt favorables, on connaît les grands lycées ou collèges parisiens.
Ben non, les effectifs sont tout aussi élevés. Non, ce qui change dans le privé, c'est que les parents sont payeurs, donc la démarche est différente, les élèves sont un peu en obligation de résultat, donc ils foutent moins le bordel, on a plus de discipline, c'est plus agréable comme condition de travail au niveau de la discipline, mais au niveau pédagogique, on a exactement les mêmes moyens que les autres.
Je peux vous demander combien vous gagnez, si c'est pas trop indiscret ?
Moi, je suis en échelon 5. Ça fait 6 ans que je suis prof et je gagne 1800 euros net par mois.
Et vous venez d'où, sans citer le lycée ?
17e.
17e arrondissement de Paris.
Septembre, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée sociale des classes. Et là, il y a une petite délégation des chilenos en Francia, apoyando el movimiento estudiantil. Donc c'est les camarades chiliens là qui sont venus soutenir les enseignants en lutte ici à Paris. Chili en lutte pour une éducation publique gratuite et de qualité. Alors, encore un petit mot des camarades chiliens, là, des étudiants chiliens. Le mouvement est important aussi là-bas.
Ah bah oui, depuis 4 mois, tout le pays est mobilisé, non seulement les étudiants.
Alors on parle ici de la nouvelle école capitaliste, en fait, qui est...
Bah c'est chez nous, hein.
Ah bah chez vous, vous êtes précurseurs.
On l'a déjà chez nous, hein. On l'a déjà chez nous, non, on veut pas. Mais le modèle néolibéral est arrivé à son terme, à sa fin, et plus personne veut le supporter parce que c'est la privatisation qui a amené à l'endettement de toutes les familles pour pouvoir payer l'éducation. Donc ce n'est plus supportable. Ce n'est plus supportable. C'est pourquoi depuis 4 mois, nous sommes à la 39e manifestation. 39e manifestation qui va des 70 000 à la dernière, qui on a eu 180 000. Et donc, c'est une situation qui ne devient plus supportable.
Alors aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des familles endettées, c'est ça ?
Bah, pour l'éducation, c'est les familles endettées fondamentalement, pour même 10 ans après la fin des études. Mais c'est plus de la moitié de leurs revenus tous les mois qu'ils doivent payer pour mettre leur fils à l'université. Mais pour une université qui n'a aucune qualité, ils font du profit. On demande une éducation publique, gratuite, laïque et de qualité. Voilà la consigne.
En Chili et en France.
Au Chili, mais en France, on a quand même...
Encore un peu.
Quoique on est plus radical dans notre demande qu'en France, parce qu'on ne demande aucune subvention publique pour l'école privée. Voilà.
Francia, amigo, Chile está contigo. Francia, amigo.
Et voilà, on arrive maintenant devant le ministère de l'Éducation, métro Sèvres-Babylone, à Paris. Le mouvement s'achève, cette mobilisation, cette démonstration de force, ce message à Luc Chatel en cette veille de présentation du projet de loi de finances 2012 où le budget de l'éducation nationale et la question des 14 000 suppressions de postes envisagées pour l'année prochaine seront à l'ordre du jour.
C'était Remplir un vase ou Allumer un feu, reportage croisé d'Antoine Chao, Sarah Lefebvre, Benjamin Fernandez et Gaylor Van Wimersch pendant la manifestation d'hier, mardi 27 septembre. Merci à Christian Laval. À lire sur le sujet La nouvelle école capitaliste de Christian Laval, Francis Vergne, Pierre Clément et Guy Dreux aux éditions La Découverte. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, et bien sûr sur le site la-bas.org. À la technique, aujourd'hui Jean-Philippe Jeanne et Maxime Anna, réalisation Bertrand Chometon et Franck Adhérer, assistante Marina Touyez, chef du répondeur Grégory Salomonovitch, Grégory qui attend tous vos messages sur le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.